J'ai vu à plusieurs reprises ce poster qui aligne les uns derrière les autres des poissons qui sont en train de s'entre-dévorer. Ce dessin est utilisé dans un but publicitaire, mais il me fait penser à l'histoire humaine. Pour Ésaïe, les Assyriens sont l'archétype des forces qui s'opposent à Dieu. Comme le prophète l'a déjà prédit, cet empire tombera. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. On sait qu'il fut avalé par Babylone, qui à son tour fut mangé par la Grèce d'Alexandre le Grand, qui à son tour fut dévoré par Rome, qui s'est désagrégé sous les coups de butoir des ordres barbares, ce qui a donné naissance à une foison de royautés européennes et indirectement aux pays du continent américain. Après l'Empire britannique, les États-Unis d'Amérique ont pris le devant de la scène. Mais aujourd'hui, ils sont en déclin. Cependant, un jour, les empires humains seront remplacés par le millénium et ensuite, ce sera l'éternité. Le chapitre 11 du livre d'Ésaïe annonce l'une des grandes prophéties messianiques des textes sacrés. Elle prédit la venue du Messie, l'établissement de son règne de 1000 ans sur cette terre, ainsi que son programme et sa manière de gouverner. Je commence à lire le chapitre 11. Un rameau poussera du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. Ésaïe 11, verset 1er. Isaïe est le père du grand roi David, 1 Samuel 16, les versets 18 et 19. Et Ésaïe est le prophète qui a donné son nom à ce livre. Ces deux personnages ont vécu à des époques différentes et n'ont de commun que les consonances et l'écriture de leur nom. L'image du rameau qui sort de la souche fait penser au germe de l'Éternel qui représente le Messie et qu'Ésaïe a mentionné au chapitre 4 et au verset 2. Le mot hébreu traduit par « rejeton » est « netzer ». C'est l'un des titres du Messie et curieusement, il a une consonance qui rappelle Nazareth, l'humble ville où Jésus a grandi. Quand Ésaïe fait cette prophétie, il est quasi certain qu'il s'appuie sur la promesse que Dieu a faite à David, dans 2 Samuel 7, verset 16, comparé Ésaïe 9, verset 6. Quand il lui a dit qu'un de ses descendants régnera sur son royaume. Mais on peut alors se demander pourquoi Ésaïe remonte au père de David, qui est un personnage très peu connu. Ce brave homme de la tribu de Juda est un simple agriculteur qui fait aussi de l'élevage dans les environs du petit village de Bethléem. Or, au temps de Jésus, la lignée de David est retournée à ses modestes débuts, car elle a perdu la royauté après la déportation de la plupart des habitants de Juda à Babylone. Marie et Joseph, tous deux de la lignée de David, mais de branches différentes, sont très pauvres et leur demeure n'a rien de palais. Pourtant, la vie est encore présente dans la souche et les racines qui ont donné naissance au premier David. Alors, et conformément à la promesse faite par Dieu, un rejeton sublime sortira de ce même tronc. De plus, bien que le Messie soit de la lignée de David, les Écritures le décrivent aussi comme un nouveau David. Pour cette raison, le prophète Ésaïe déclare que le Messie sera issu d'Isaïe, père de David, et non du roi David lui-même. C'est vrai que ce n'est pas simple à suivre. Je continue le texte. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera la sagesse et le discernement, le conseil et la force, la connaissance et la crainte respectueuse de Dieu. Ésaïe 11, verset 2. Tout comme l'Esprit de l'Éternel fut donné à Gédéon, à David, dans 1 Samuel 16, 13, et à Salomon, en vue de diriger le peuple de Dieu, il sera également sur le Christ quand il régnera sur terre pendant 1000 ans. Seulement, le Messie ne sera pas investi partiellement ou irrégulièrement de ces trois catégories de dons, mais de façon permanente et surabondante. Les six caractéristiques mentionnées reposaient aussi sur Jésus depuis sa naissance et pendant toute la durée de son ministère terrestre. L'Esprit du Messie viendra de l'Éternel. Il s'agit du Saint-Esprit qui lui donnera la sagesse et le discernement ou l'intelligence afin de bien gouverner. Au niveau intellectuel, Jésus comprend toutes choses ainsi que la pensée de Dieu parfaitement. 1 Corinthiens 2, les versets 10 et 11. Il sait discerner le vrai du faux et le bien du mal. Ses jugements sont absolument justes. La sagesse et le discernement sont deux qualités bien rares de nos jours. Preuve en est, c'est la facilité avec laquelle les gens se laissent si facilement berner. Il suffit souvent que quelqu'un présente bien, qu'il porte une blouse blanche ou qu'il occupe une position d'autorité pour qu'il soit écouté et cru, même s'il raconte n'importe quoi. C'est vrai en religion et en science, et même en politique. Ensuite, sur le Messie résident le conseil et la force, deux qualités importantes pour faire la guerre ou tout au moins pour triompher de ses adversaires. Quand Jésus était sur terre, il n'a jamais demandé conseil à quiconque. C'est lui qui prodiguait les conseils et il était toujours judicieux. La force émanait de sa personne parce qu'il disposait de la puissance de Dieu. Pendant ses 3 ans de ministère, il a tout pouvoir sur les maladies, sur les forces naturelles et sur les esprits impurs. Tout l'univers lui est soumis et il a même triomphé de la mort. Enfin, sur le Messie réside la connaissance et la crainte respectueuse de Dieu. En tant qu'homme, ou même Messie, Jésus est la démonstration de la connaissance parfaite de l'Éternel avec qui il est en relation intime. Évidemment, Jésus a toujours eu la plus grande révérence pour Dieu son Père. Les 6 caractéristiques citées par Ésaïe sont très similaires aux traits de la sagesse qui est personnifiée dans le chapitre 8 du livre des Proverbes, versets 12 et 15. Elle rappelle également les attributs mentionnés par Ésaïe au chapitre 9 et qui concernent le Fils de Dieu, né enfant, qui deviendra roi. Je rappelle ce passage. Un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu très fort, Père à jamais et Prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Du temps d'Ésaïe, toutes les qualités mentionnées ici font défaut aux dirigeants du peuple de Juda. Ésaïe 1, 17 et verset 57. Soit dit en passant qu'on ne les trouve pas non plus chez ceux qui nous gouverne aujourd'hui. Je continue le texte. Il respirera la crainte respectueuse de l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après des oui-dire. Ésaïe 11, verset 3. Obéir à Dieu était pour Jésus et sera pour le Messie comme un parfum agréable. Jésus a dit à ses disciples, « Ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Jean 4, verset 34. Je continue. Il jugera les pauvres avec justice et il arbitrera selon le droit en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra le méchant. Ésaïe 11, verset 4. Avant que Jésus n'instaure le millénium, aura lieu l'enlèvement de l'Église. Alors, tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, qui sont vivants ou morts, recevront un corps de résurrection et seront glorifiés. C'est vrai, mais ils passeront aussi devant son tribunal. Face au Seigneur qui sera le juge, tout ce qui est caché, faux, hypocrite et artificiel sera dévoilé. Cette pensée est terrifiante. C'est pourquoi je m'efforce de faire un maximum de ménage dans ma vie avant de me présenter à ce rendez-vous fatidique. Alors que les croyants seront aussi évalués, cette année de jugement aura lieu sur terre. Puis le Christ viendra faire régner la paix et la justice ici-bas pendant 1000 ans. Il est nécessaire qu'il vienne, car nous avons désespérément besoin d'un vrai et d'un puissant dirigeant qui soit parfaitement juste. aucune nation ne votera pour lui, mais comme Dieu l'a choisi, et que c'est lui qui décide, le Messie instaurera le millénium, et, dès le début, il remettra toutes les pendules à l'heure en prenant la défense des opprimés. Alors qu'aujourd'hui, toute autorité humaine, même bienveillante, n'a pas d'autre moyen d'information que ce qu'on peut voir, entendre ou imaginer. Jésus lui lit dans les cœurs ce qui le rend infaillible dans l'application de la loi. Quand il prononce un jugement, son verdict et la sentence sera sans appel. L'image du bâton avec lequel il frappe la terre est semblable à celle du sceptre de fer dont il est question dans le second psaume, et de l'épée dans le livre de l'Apocalypse au psaume 2, verset 9, Apocalypse 1, 16, 19, 15, comparé Ésaïe 49, 2, 2 Thessaloniciens 2, 8, Luc 3, 15 à 17, pendant le millénium. Il n'y aura plus de coupables déclarés innocents, ni d'affaires en justice qui traînent en longueur pour finir par un non-lieu. Je continue de lire dans le chapitre 11. Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. Ésaïe 11, verset 5. La ceinture symbolise à la fois la force et l'énergie, car en Orient, on met une ceinture pour agir ou combattre. Job 38, verset 3, Éphésiens 6, verset 14. Rendre la justice et être fidèle à sa parole, c'est-à-dire tenir ses engagements et ses promesses ou mettre ses menaces à exécution, sont deux vertus essentielles d'un roi. Ce sont la justice et la fidélité, et non les armes et le faste extérieur, qui constitueront la solidité et l'honneur du gouvernement messianique. Jésus-Christ sera à la fois un second David et un second Adam. Il rétablira le royaume disparu du premier et la domination perdue du second. Je continue. Le loup vivra avec l'agneau, la panthère paîtra aux côtés du chevreau, le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble, et un petit enfant les mènera au pré. La vache et les ours brouteront côte à côte, et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Ésaïe 11, versets 6 et 7. Enfant, j'ai dû apprendre par cœur la poésie de la chèvre de M. Seguin, une histoire triste à mourir. Aujourd'hui, certains animaux ne peuvent être ensemble que si l'un est dans le ventre de l'autre. C'est ce qui se passe entre le loup et la chèvre, un renard et une poule, le tableau idyllique d'une nature totalement transformée, dressée par Ésaïe, complète un verset du chapitre 2 qui décrit l'harmonie universelle. Je le lis. L'Éternel sera l'arbitre des peuples. Oui, il sera le juge de nombreuses nations. Martelant leurs épées, ils forgeront des socles pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe 2, verset 4. Sous le règne du Messie, le prince de la paix, la malédiction qui pèse sur ce monde sera levée, et toute agressivité entre hommes et animaux disparaîtra. On reviendra à la case départ, car tout retournera à l'état primal des premiers jours de la création originelle, avant que le mal ne pénètre dans l'univers et avant que nos premiers parents désobéissent à Dieu dans le jardin d'Éden. Aux Romains, l'apôtre Paul écrit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Romains 8, les versets 19 à 21. Je conçois qu'il est très difficile d'imaginer un lion et un bœuf broutant ensemble. Cependant, la vraie question consiste à se demander s'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu. À un sceptique qui se moquait de ce passage, on a répondu « Si tu arrives à créer un lion, moi je lui ferai manger de la paille. » Je continue le texte. Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra, et le plus jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers. Ésaïe 11, versets 8 et 9, comparé à Habacuc, chapitre 2, verset 14. Ésaïe quitte le domaine animal pour revenir à l'homme. La montagne sainte est la colline de Sion sur laquelle est bâtie Jérusalem, la résidence de l'Éternel, ainsi que des rescapés israélites convertis. Ésaïe 2, 2, 9, 6 et 7, 66, verset 20. La connaissance de Dieu sera alors universelle à l'image de l'eau qui emplit les mers. Il n'y aura plus ni idolâtrie, ni même de religion. Ésaïe 4, versets 5 et 6, Zacharie 14, versets 20-21. Le monde tel que nous le connaissons sera fondamentalement transformé, métamorphosé et plus exact. L'animosité ancestrale entre l'humanité et les serpents prendra fin, et il ne se fera plus aucun mal sur terre parce que tous les hommes iniques auront été jugés. Et partout dans le monde, les êtres humains reconnaîtront que l'Éternel est Dieu et que sa parole est la vérité. 1 Rois 17, 24, 18, 39. L'obéissance au Messie sera alors entière et totale, du moins au début de son règne. Je continue de lire dans le chapitre 11. Il adviendra, en ce jour-là, que le descendant d'Isaïe se dressera comme un étendard pour les peuples, et toutes les nations se tourneront vers lui, et le lieu où il se tiendra resplendira de gloire. Ésaïe 11, verset 10. Vers la fin de son épître aux Romains, l'apôtre Paul résume ce passage quand il écrit. Ésaïe dit de son côté, « Un rejeton naîtra d'Isaïe. On le verra se lever pour mener les nations et les peuples païens mettront en lui leur espérance. » Romains 15, verset 12. Ce jour-là, de la prophétie d'Ésaïe désigne, d'une part, la longue période de 7 ans de jugement décrit par les prophètes dans l'Évangile et dans le livre de l'Apocalypse, suivi d'un règne de Jésus-Christ pendant 1000 ans. Mais d'autre part, ce jour-là désigne aussi n'importe quelle portion de cette période de 1007 années. Pendant le millénium, Israël aura une place privilégiée parmi les nations en accord avec les promesses que Dieu lui a faites. Cependant, le monde entier sera sous la bénédiction de Dieu. La prophétie d'Ésaïe et d'autres prophètes qui annoncent le salut des non-juifs gonflaient la voile de l'apôtre Paul en justifiant son ministère auprès des païens. Il savait en effet qu'il participait activement à l'objectif final de Dieu qui est le salut des nations. Ici, dans la prophétie d'Ésaïe, en ce jour-là, évoque la paix universelle du millénium. La gloire du Messie lui-même, issu d'Isaïe, père de David, couvrira toute la terre. Jésus sera l'étendard, le point de ralliement de tous les peuples. D'ailleurs, déjà, quand il était sur la terre, il a dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean 12, verset 32. Je continue le texte. Ce jour-là, le Seigneur interviendra une seconde fois pour libérer le reste de son peuple qui aura subsisté en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, en Babylonie et à Hamat, ainsi que dans les îles et les régions côtières. Il restera son étendard pour les nations. Quant aux exilés d'Israël, il les rassemblera et les dispersés de Juda, il les regroupera des 4 coins du monde. Ésaïe 11, versets 11 et 12. 7 siècles plus tôt, Moïse a déjà prophétisé l'exil d'Israël ainsi que son retour ultime, Deutéronome 28, 30 et 5. La première fois que l'Éternel est intervenu pour libérer son peuple est la sortie d'Égypte, Exode 15, verset 16. L'Exode est l'exemple type de toutes les délivrances subséquentes jusqu'à la dernière. Le salut messianique, quand Dieu ramènera en Palestine tous les rescapés de son peuple dispersés dans le monde. La série et l'Égypte sont les deux grandes puissances qui, du temps d'Ésaïe, menacent le royaume de Juda. Le prophète mentionne plusieurs fois ces deux pays pour désigner l'ensemble du monde païen. Ésaïe 19, 23 à 25, 27, verset 13. Les 10 tribus israélites du Nord ont déjà subi l'invasion des Assyriens, ont perdu une partie de leur territoire et le peuple est proche d'être emmené en captivité. Patros, c'est la Haute Égypte. Élam est un pays à l'est de la Babylonie, qui a Suse pour capitale. Hamath est une ville de Syrie. Les îles et les régions côtières représentent le bassin méditerranéen. La mention de cette nation par Ésaïe est une façon de faire que les rescapés juifs reviendront des quatre coins du monde. Je continue. Ce jour-là, cessera la rivalité d'Éphraïm et l'inimitié de Juda disparaîtra. D'une part, Éphraïm n'enviera pas Juda, et d'autre part, Juda ne sera plus l'ennemi d'Éphraïm. De concert, ils fondront sur les collines des Philistins à l'ouest et pilleront les peuples de l'Orient. Ils s'en prendront à Édom et Moab et domineront sur les Ammonites. Ésaïe 11, les versets 13 et 14. Les peuples de l'Orient sont des tribus nomades pillardes du désert situé en Arabie à l'est du Jourdain. Tous ces peuples sont autour d'Israël et de tout temps ses ennemis héréditaires. Elles furent toutes vaincues par David après qu'il ait unifié son royaume. Dans 2 Samuel 8, les versets 1 à 14. Juda et Éphraïm constituent les deux tribus d'Israël les plus puissantes, mais sont aussi rivales, chacune étant à la tête de l'un des deux royaumes. Le Messie réalisera l'unité de tout le peuple. Cette future harmonie contraste fortement avec leur animosité du passé. Ézéchiel 37, les versets 16 à 19. Ce jour-là désigne ici l'immense carnage dû au jugement de la fin des temps. La nation d'Israël, prise en tenaille par une coalition mondiale, criera à l'Éternel et reconnaîtra en Jésus son Messie, qui interviendra et décimera tous ses ennemis. Je finis maintenant de lire le chapitre 11. Et l'Éternel asséchera le golfe de la mer d'Égypte. Il lèvera sa main pour menacer l'Euphrate, et par son souffle impétueux, il brisera ce fleuve en 7 ruisseaux que l'on pourra passer sans ôter ses sandales. Et il y aura une route pour ceux de son peuple qui resteront et qui demeureront encore en Assyrie, comme il y eut jadis une route pour Israël quand il est sorti d'Égypte. Ésaïe 11, les versets 15 et 16. Le thème d'une route permettant un nouvel exode revient plusieurs fois dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 19, verset 23, 35, 8 à 10, 40, 3 et 4, 57, 14, 62, verset 10. Les miracles qui permirent au peuple hébreu de sortir d'Égypte, dans Exode 14, versets 21 et 22, 29 et 15, 8, seront renouvelés afin que tous les rescapés d'Israël puissent revenir dans leur pays. Même le lit de l'Euphrate sera modifié pour que rien ne fasse obstacle au peuple élu rentrant en Palestine pour participer aux 1000 ans du règne du Christ sur terre. Ah, que je voudrais déjà y être !